Radio Campus Lille, il est 6h.
La Bassure en fête. Retour sur l'événement dédié à la nature et à l'environnement à Achicourt. Cette année, le thème était de la terre à l'assiette. Reportage réalisé sur place. On entendra des interviews d'intervenants qui présentent leur stand, notamment Romain et Fabien qui évoquent le retour à la préhistoire pour fabriquer de la cervoise mais aussi de la vannerie. Et on terminera par Eric de l'AMAP du Cogeul et Laetitia Maraîchère pour parler de la consommation bio. Tout cela agrémenté par une illustration sonore de l'harmonie d'Achicourt qui officiait musicalement lors de cet événement.
Bonjour à toutes et à tous, Romain Plichon, je suis responsable de la médiation culturelle pour l'établissement public Somme Patrimoine qui gère les sites de Samara, le parc archéologique et naturel, le centre de recherche de Ribemont-sur-Ancre et la citadelle de Doulan.
Et là, je vois que tu prépares une sorte de compoté, comme tu viens de me dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Ouais, je suis un peu en train de faire de la magie. Bon, c'est une magie très pragmatique, hein, c'est-à-dire que j'ai une poterie comme au néolithique, comme il y a plus de 5000 ans avant notre ère, que j'ai rapprochée progressivement du feu depuis ce matin pour qu'elle monte en température. D'accord. L'eau a fini par bouillir et j'y ai mis à l'intérieur du pain, des céréales, des choses bien torréfiées, bien grillées préalablement sur le charbon de bois parce qu'on a eu le droit de faire un feu à la fête de la brassure pour cuisiner comme à la préhistoire. Et progressivement, on est en train de fabriquer une soupe de céréales qui a des pouvoirs magiques parce qu'elle va créer de la fermentation et devenir une cervoise comme à l'époque.
Ah ouais, donc du coup, ça se consomme en boisson ou...
Oui, effectivement. En fait, le fait de faire des bouillies de céréales...
Cervoise, c'est quand même...
C'est pas encore la même chose. Ouais. On peut faire des bouillies de céréales, on peut être sur des sortes de porridge, hein, d'une certaine manière. Ça, on le mange beaucoup à l'époque, a priori. Cependant, si on laisse travailler les céréales et si on laisse les levures faire leur travail, si on y rajoute un petit peu de fruits, là, j'étais en train de découper des dattes avec mon couteau en cuivre, si on y rajoute un petit peu de fruits pour rééquilibrer un petit peu l'acidité de tout ça, que l'on filtre ensuite, eh ben, on obtient ce qui est ni plus ni moins que l'ancêtre de la bière. Et c'est ce qu'on est en train de fabriquer ici, aujourd'hui, Achicourt.
Alors, il y a quand même des gens qui sont passés devant votre stand. Alors, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous conversez avec eux?
Bah, en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'en parlant de cervoise, en parlant de cuisine, en parlant de vannerie, comme Fabien est en train de le faire, et ben, finalement, on ouvre plein de sujets, on ouvre plein de discussions. On parle d'archéologie, on parle du monde, on parle d'économie, on parle de soi, on parle du territoire, on parle des hommes et des femmes préhistoriques. Donc, finalement, il y a autant de questions qu'il y a de personnes. Et puis, nous, on a des histoires à raconter. Donc, on sent qu'on est écouter avec des grands yeux, mais il faut dire aussi, là, vos auditeurs ne le voient pas, mais on est habillé de manière particulière. Moi, j'ai un grand manteau en cuir et puis une tenue de lin.
Des sandales un peu spéciales. Hein.
Et des chaussures, effectivement, en cuir, en étant à pieds nus en dessous, parce que l'idée, c'est d'essayer de s'habiller, puis finalement de refabriquer un décor, des objets, des goûts, des odeurs, comme à l'époque. Ça, c'est notre travail de médiateur culturel.
Vous occupez toujours sur le même stand, hein, de la vannerie.
Tout à fait, la vannerie préhistorique de préférence, mais elle rejoint la vannerie moderne, hein, puisqu'on utilise depuis très très longtemps les mêmes matériaux, c'est-à-dire de l'osier. De l'osier qui vient de l'arbre qu'on appelle le saule. Le saule, l'osier de saule. Et puis là, vous avez différents objets que j'ai fabriqués aussi avec du noisetier notamment. Et puis mon artisanat de prédilection, ça reste la sparterie. Donc c'est un petit peu une vannerie spéciale.
Alors ouais, il faut expliquer un petit peu. La sparterie, c'est un peu complexe.
Alors la sparterie, c'est une technique qui ne consiste pas à tresser, à tisser les branches comme on le fait dans la vannerie classique avec l'osier, ouais, mais à coudre. À coudre les herbes. Moi, j'utilise beaucoup du jonc, par exemple, du jonc séché, du fil de lin ou des éclisses de ronces. Donc des éclisses, ce sont des fines languettes de ronces qui vont me servir à lier les herbes les unes avec les autres. Et en l'occurrence, j'ai le chapeau que j'ai sur ma tête qui est fait de cette manière.
D'accord.
La ruche que vous avez ici, et puis plein d'autres objets. La petite poche pour cacher les artefacts modernes, par exemple.
Il y a des pierres aussi.
Alors j'ai ici un
du silex, hein, alors, si je ne me trompe pas.
On est à la préhistoire. Alors le silex, c'est quand même la pierre de prédilection. C'est une pierre très tranchante. Elle n'est pas coupante, elle est tranchante, hein, parce qu'on se coupe, on s'en rend même pas compte. Hein. Donc du silex pour faire toutes sortes d'outils, et aussi un percuteur en silex qui me permet de fabriquer, d'allumer un feu. Donc là, il n'est pas tranchant, il a des bords arrondis et qui accroche un petit peu l'autre pierre. Cette pierre qui est riche en fer et en soufre, qu'on appelle la marcassite. Et lorsqu'on percute la marcassite avec un silex, déjà ça sent, hein. Ça sent parce qu'elle contient du soufre. Hein, quand même.
Ah ouais.
Et bon, là il y a un peu trop de lumière, on les voit pas, mais dans une un peu de lorsque la lumière est un peu moins forte, ça produit des étincelles que l'on capture avec de l'amadou émietté.
Ouais.
Alors l'amadou, c'est une matière qu'on va trouver dans un champignon qui pousse sur sur les arbres morts, les vieilles branches.
C'est ce qui permet d'allumer le feu, en fait.
Et c'est ce qui permet d'allumer le feu. Et ça, on en est quasiment certain, puisqu'on a retrouvé tous ces éléments dans les bagages d'un homme préhistorique, le plus célèbre du monde, qu'on appelle Ötzi, qu'on a découvert en 1991. Et Ötzi, il avait tout ça sur lui. Autrefois, on avait toutes sortes d'hypothèses, mais aucune certitude absolue. Hein. Et là, grâce à la découverte d'Ötzi, ben, maintenant, on sait qu'on pouvait allumer un feu comme ça à la préhistoire. Il y a sûrement d'autres méthodes, mais celle-ci, elle est à tester. Et Ötzi, il avait tout son matériel dans une petite poche en sparterie. Et là, cette petite poche en sparterie est constituée d'écorce de bouleau cousue avec du fil d'ortie. Alors lui, Ötzi, c'était plutôt du fil de tilleul qu'il utilisait, le liber de tilleul. Une autre matière très très résistante, hein, qu'on trouve entre le bois et l'écorce de l'arbre. Et là, en l'occurrence, j'ai un fourreau de couteau, qui est la réplique du fourreau de couteau d'Ötzi.
D'accord.
En liber de tilleul.
D'accord, donc il mettait son couteau là-dedans.
Il mettait son couteau en silex dedans, oui.
Ouais. Si on veut vous contacter, vous retrouver et tout ce que vous faites, etc., on fait comment ?
Ah ben, vous me retrouvez à Samara. À Samara, c'est qui se trouve pas loin d'Amiens, dans la Somme.
Les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question quand vous leur expliquez un peu tout ça ? Est-ce que ça les intéresse, ça les intrigue ou...
Alors, ce qui les intrigue le plus, c'est le temps qu'on met pour fabriquer tous les objets. Parce que tout est fait avec des matériaux, c'est fait à la main, avec des matériaux qu'on trouve dans notre environnement. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout habitué à ça. Il faut que tout aille très vite, on appuie sur un bouton et tout tombe du ciel. Et à l'époque, on n'a pas ce bouton. Hein, et donc, il faut fabriquer les choses soi-même. Et on n'a pas le choix, donc on les fait. Donc la patience, on l'a de toute manière.
Bonjour, je suis David Markowski, je suis un des membres de l'AMAP du Cogeul, donc l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne du Cogeul, comme son nom l'indique, c'est du local. C'est la seule AMAP de la communauté urbaine d'Arras. Donc je m'implique avec les autres AMAPiens dans on va dire un élan qui est de consommer autrement et de vivre autrement le rapport aux produits de la terre. On soutient une maraîchère qui s'appelle Laetitia Braiel, qui a un maraîchage qui s'appelle l'Utopie Maraîchère à Bois-le-Saint-Marc. Et la MAP, le principe, c'est d'être solidaire d'une maraîchère, que les conditions météorologiques soient favorables ou défavorables. On lui assure un revenu constant toute l'année. On s'engage auprès d'elle à l'accompagner aussi bien financièrement avec un revenu constant et aussi mieux, concrètement, lui donnant des petits coups de main sur le terrain quand c'est nécessaire. Et puis, on bénéficie de ses parts de récolte.
Alors, on voit que sur votre stand, il y a des légumes, hein, il y a des choses que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette espèce de truc un peu violet là.
Alors on a des choucals, des choux raves, des choux sous toutes ses formes, des tomates sous toutes leurs formes, et on redécouvre aussi des légumes qu'on méconnaissait ou qu'on avait oubliés, et notamment
les topinambours.
C'est arrivé, oui, topinambours, feuilles de blette, épinards d'une fraîcheur extraordinaire. Alors évidemment, c'est du bio de chez bio, c'est-à-dire même de la bouillie bordelaise, elle n'en met pas à la maraîchère. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument sans aucun traitement.
C'est un peu compliqué. Là, en ce moment, les agriculteurs de la FNSEA manifestent pas mal pour justement continuer à mettre des pesticides.
C'est compliqué et en même temps, ben, je me pose une question, comment ils font en bio pour justement pas utiliser de pesticides, au moins pas de pesticides chimiques, mais tout au moins naturels, pour pouvoir arriver à faire des récoltes.
Alors Laetitia, non seulement elle n'utilise pas de pesticides, mais elle n'est même pas mécanisée. Donc c'est du temps, c'est de l'adresse et c'est de la vigueur qui fait qu'on a des produits sains sans aucun ajout. Et puis de toute façon, elle se conforme aussi, je veux dire, on a le label bio, enfin elle a le label bio, il y a un cahier des charges précis et une analyse des sols, donc je veux dire, on ne triche pas, quoi. C'est vraiment, et en plus nous, Amapien, on est là aussi pour le constater de visu, puisqu'on est aussi sur le terrain de temps en temps pour donner un coup de main. Le concret au service du bon, on le voit tous les jours.
Puis, est-ce qu'il y a des ateliers qui sont proposés aussi auprès du jeune public pour les sensibiliser, etc.
Alors, des jeunes et des moins jeunes, je vais donner un exemple, parce qu'on pense souvent à sensibiliser les tout-petits, et c'est bien de le faire, mais il y a une action que j'aimerais relater, c'est une action avec des étudiants de licence management des établissements de gastronomie et des arts de la table, donc des futurs managers de restaurants, voire même des futurs professeurs dans hôtellerie et restauration, qui sont venus sur le terrain, qui ont façonné un cocktail à base de produits, notamment de betteraves rouges, qui étaient produits sur le terrain, et qui ont vu la production au maraîchage on ne peut plus traditionnel en opération, et qui ont valorisé aussi sur place à travers de ces produits des recettes jusqu'à des cocktails comme je l'ai évoqué il y a un instant.
Eh ben, je vais me tourner vers Laetitia alors du coup. Comment vous faites en culture bio en n'utilisant pas de pesticides, sachant que en ce moment les agriculteurs de la FNSEA ils sont en train de revendiquer le genre il nous les faut les pesticides. Est-ce que c'est difficile ou pas? Ou est-ce que vous trouvez quand même que finalement c'est simple?
Non, je dirais pas simple, mais c'est tout à fait possible. Il y a d'autres solutions, en fait, il y a d'autres alternatives en fait aux pesticides. Et surtout pas en rajouter déjà à ce qu'il y a déjà. On sait la pollution en fait que ça peut engendrer sur l'humain, sur les eaux, sur les terres. Et donc plutôt sur les solutions de PNPP, donc les préparations non préoccupantes. Donc moi je travaille beaucoup avec tout ce qui est plantes, en fait des macérations comme le purin d'ortie en fait qui est un peu la base, qui peut servir autant d'engrais que de désherbants. L'idée c'est de travailler vraiment avec la nature.
Et la nature nous le rend bien à chaque fois.
Quand on s'en occupe, oui, effectivement. Ouais. Mon sol est vivant, j'ai de la vie sur mon terrain et c'est grâce à toute cette vie, que ce soit dans le sol, en dehors, on travaille avec et pas contre.
C'est important aussi cette collaboration donc, avec les AMAP, etc. Pour vous, en tant que productrice.
C'est un peu l'essentiel en fait, de ma volonté en fait, de recréer du lien entre les consommateurs et une autre. C'est un autre monde, enfin une alternative en fait à la société de consommation actuelle. C'est aussi reprendre la main en fait sur ce qu'on mange, sur qui produit, comment elle est produite, et puis de connaître aussi tous les enjeux, que ce soit financier, et puis les événements climatiques en fait qu'on peut subir, et de prendre conscience en fait que voilà, qu'il est important en fait de reprendre possession de cet aspect-là de notre vie qui est essentiel et vital.
Reportage réalisé par Boris Guyot pour Radio PFM lors de l'événement Brassure en fête d'Achicourt sur le thème de la terre à l'assiette et qui s'est déroulé le 29 mai.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM www.campuslille.com.
Dans la tête, une chanson qui t'habille, des refrains pour les... tu l'avais allumé pour des gamins en vrac, des vendeurs de Rolex, de paradis ratés. T'as vu un ange gardien, tu sais comme il ment, avec sa gueule de chien, il t'a pris tes 20 ans. T'arrives plus à penser, tu pries et puis tu jures que t'as bien assez pleuré, toute seule entre les murs.
Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución, marcha en pos de la anarquía, y el yugo debe finir con amor, paz y alegría de una existencia feliz, donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor.
Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuic número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor.
Secret Garden and the Dusty Man, c'est un groupe de blues du Valenciennois qui a sorti le 20 juin dernier son nouvel EP Keep Looking Up, une belle occasion de fêter leurs 10 ans de carrière. Sarah, alias Secret Garden, et Emric, the Dusty Man, nous parlent de ce disque et de l'évolution de leur duo.
Alors on s'est connus donc il y a 10 ans déjà maintenant, quand on était dans le même établissement parce qu'on est prof aussi à côté tous les deux.
Et on s'est rendu compte qu'on faisait de la musique tous les deux. Donc Amérique, il m'a proposé de passer chez lui pour improviser sur du blues. Donc j'ai travaillé un peu les morceaux en amont. Je me suis pointée chez lui. On a commencé à improviser, à taper un peu le bœuf. Et puis là, il s'est dit « Ok, bah, en fait, finalement, on va pas juste improviser comme ça tous les deux. On va monter un vrai projet parce que ce serait dommage de rater une occasion pareille. » Et puis voilà, ça fait 10 ans.
Bon, j'avoue que j'avais pas que la musique en tête quand je l'ai invité à la maison.
Une rencontre donc pas uniquement musicale, mais côté musique, elle s'est faite autour du blues, et pas n'importe quel blues.
Un groupe qui a sa propre patte, celle du blues and roots. Alors, c'est vrai que le blues, il a ses racines, il a son origine, mais vous, c'est un blues un petit peu différent, expliquez-nous.
Ben justement, c'est le blues qui est plus proche des racines. C'est le blues qui arrive plutôt du delta, donc le delta du Mississippi, pas loin de Memphis, un petit peu plus au sud de Memphis. C'est pour ça qu'on a appelé ça à la base le blues and roots. Maintenant, on s'est rendu compte que ce terme perdait un peu les gens. Donc quand on parle de delta blues, parfois ça parle un peu plus. Et c'est compliqué parce qu'on mélange vraiment beaucoup de styles. Il y a une bonne dose de rock. On n'est absolument pas dans la reproduction fidèle d'un blues traditionnel, mais on s'inspire fortement de cette vision là du blues, avec une guitare, plutôt des guitares slide, des guitares dans des encordages un petit peu plus particuliers, une énergie qui est vraiment un son qui est plus sale aussi, et quelque chose qui est beaucoup plus brut de décoffrage. Alors que quand on remonte un peu plus vers le nord, quand on va partir vers Chicago, là on va avoir un blues qui va se s'urbaniser, qui va devenir un peu plus précis, un peu plus classe au fur et à mesure qu'on va monter vers le nord.
D'ailleurs, je crois que vous êtes allé récemment sur les terres du Delta Blues.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus? Alors non pas sur tous les détails de ce voyage qui était quand même perso, mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur les terres de cette musique qu'on admire et qu'on a envie de jouer au plus grand nombre en proposant ses propres compos?
C'est impressionnant en fait. Sur le coup, on n'avait pas l'impression que c'était réel. On est arrivé un mardi soir à 23h. On est sorti et en fait, il y avait des groupes qui jouaient dans quasiment tous les bars, donc on était à la Nouvelle-Orléans au début. Et qu'est-ce que ça jouait, hein. Oh, ils étaient exceptionnels, hein.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le culte qu'il y a autour de la musique, qui n'existe pas en France, clairement, hein, même si on aime la musique, mais c'est vraiment à un autre niveau. Il y a un des endroits où on est allé, qui est Clarksdale, qui est la capitale du Delta Blues. C'est une région qui est très très pauvre. Ils ont que ça pour eux, le blues, c'est leur tour Eiffel pour nous, quoi. Donc il y a vraiment un véritable culte pour la musique en général, et dans ces endroits-là, pour cette musique en particulier. Et ça, bah, quand on arrive, nous, en tant que musiciens de blues, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 marquant. Moi, ça m'a retourné les tripes du début à la fin.
Ouais, justement, quand on fait un voyage comme celui-là, qui finalement est entre guillemets un pèlerinage, est-ce qu'on revient boosté, ou est-ce qu'au contraire on revient en se sentant vraiment tout petit par rapport à, justement, tu dis, cette pratique de la musique, ce côté cultuel quasiment de la musique?
Les deux.
Ouais, un peu les deux, ouais, je suis d'accord.
Ça booste énormément parce que, effectivement, on rencontre plein de musiciens qui joue de fou, et puis ça semble naturel. On a vu des gens à Memphis, on a vu une sorte de petite cour où il y avait une scène. À un moment, le gars qui servait les boissons, il s'est levé, il a été chanté, il a mis la baffe à tout le monde, il est reparti servir ses boissons. Le gars qui faisait les entrées, il s'est levé, il a été chanté, il a mis sa baffe à tout le monde, il a été refaire les entrées. Enfin, il y a cet aspect-là. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui jouent complètement approximativement, et on se dit, en fait, on pourrait jouer, ça dénoterait pas complètement. Donc il y a ces deux aspects-là, en fait, qui moi, m'a marqué aussi, de se dire, c'est une bonne baffe, mais en même temps, ça donne envie d'y aller pour de vrai, d'aller y faire nos propres concerts.
Ah, c'est ça, la prochaine fois qu'on y va, l'objectif, c'est de pouvoir y jouer. Ce serait vraiment le top.
Et on croise évidemment les doigts pour que ça puisse se faire. Est-ce que ce voyage vous a inspiré? Parce que forcément, quand vous êtes parti, l'EP, il était déjà en cours de finalisation. Il n'y a pas de nouvelles choses qui sont rajoutées, mais peut-être qu'il y a des carnets de notes qui se sont remplis pour de prochaines choses.
Ouais, bah on a déjà écrit un morceau qui s'appelle Mississippi, donc forcément, comme tu viens de le dire, il n'est pas sur l'EP vu que l'EP était déjà enregistré.
Le 20 juin est donc sorti Keep Looking Up, nouvel EP du duo blues valenciennois Secret Garden and the Dusty Man. Un EP que l'on peut bien évidemment se procurer en version numérique, mais aussi, et c'est à souligner, en version physique.
Oui, sur notre site aussi, il est en vente en ligne. Il sera en vente en ligne à partir du 20. On peut déjà le précommander, en fait. On a un Bandcamp sur lequel on peut gérer toutes les commandes. On peut l'acheter en physique, on peut l'acheter en dématérialisé.
Et donc notre site, c'est sgdm.fr.
Et c'est là-dessus qu'on peut, à partir de là, qu'on peut commander le disque. Parce que le physique, c'est bien aussi. Hein. On ne sait jamais, hein, sur les plateformes, d'un jour ou l'autre... Ce qu'on a mis de côté, ça peut disparaître. Hein, donc, si un jour on oublie de payer notre abonnement pour être sur les plateformes, voilà, vous avez plus le disque. Alors que bon, si vous l'avez en physique, ça vous l'avez pour de bon. Surtout qu'on a quand même un bel objet. On a un super graphiste, hein, Arfouane Design, qui travaille avec nous depuis les débuts. Et puis on a Dominique Lemaguer qui nous a fait une superbe photo. Et on l'a en miniature sur son téléphone, mais quand on l'a en vrai, on l'a un peu plus grand.
Cette EP, 5 titres, nous parle de l'importance de se retrouver, des liens familiaux également, mais pas uniquement. Le titre de l'EP, comme l'une de ses chansons phares, nous parle de l'importance d'être résilient.
On pourrait le traduire finalement par « Garde la tête haute », le titre de cette EP, parce que c'est vraiment ça le message que vous voulez porter à travers ce disque.
Ouais, c'est aussi « Garder le courage ». Il faut savoir que ce morceau-là, on l'a écrit à l'époque où c'était le Covid, donc le confinement, le deuxième ou le troisième confinement, où c'était vraiment la grosse galère pour nous. Et on a eu l'envie d'écrire ce morceau pour parler de ce qu'on vivait.
Partir sur l'idée aussi, quand on a écrit ce texte, qu'un jour ça irait mieux. Mmh. Donc c'était ça aussi, de se dire, ok d'accord, là en ce moment c'est dur. C'est vrai que les deuxième et troisième confinements, moralement, ont été très très durs à encaisser. Et de se dire, un jour on s'en sortira, un jour on se retrouvera, on arrivera à se retrouver tous ensemble. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qu'on continue à se dire un petit peu tous les jours, parce que garder le courage, on en a besoin. On a l'impression de sortir d'une catastrophe pour enchaîner sur une suivante, et de se dire, continuer à se dire, un jour ça ira mieux, un jour ça ira mieux. On sait pas quand, mais un jour ça ira mieux. En fait, c'est antinomique, mais on fait un blues feel good. Normalement, justement, le principe même, le nom du blues vient de l'expression avoir un coup de blues. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est ça. On est censé exprimer notre tristesse. Et on exprime notre tristesse aussi dans notre musique.
Mais sous forme d'espoir.
Voilà, toujours garder cette idée que. Toujours garder une porte vers quelque chose de positif dans nos textes. Quoi.
Ce nouvel EP a été enregistré en home studio. Sarah et Emric du groupe Secret Garden and the Dustymen nous en disent plus sur les conditions d'enregistrement.
Alors on a tout fait nous-mêmes, on l'a enregistré à la maison puisque on a notre studio,
tout est. On a un peu de matériel.
Voilà, on a un peu de matériel à la maison. On s'est équipé au fur et à mesure. Donc on a fait un enregistrement. Au départ, on a fait
toutes les parties instrumentales.
Ouais, merci.
Donc on a fait d'abord toutes les parties instrumentales.
On n'a pas enregistré façon live, on a vraiment fait séparément.
Enfin, plus ou moins séparément, on n'a pas fait complètement piste par piste. Vraiment complètement séparé, c'est ce qu'on avait fait pour le premier album.
Perdait un peu le groove en fait, en faisant ça.
Donc je voulais vraiment garder le groove qu'on avait d'un point de vue déjà percussion, parce que moi j'ai la grosse caisse et c'est Sarah qui a ce qu'on appelle la pulse, quoi, donc ce qui remplace la caisse claire, que ce soit avec le washboard, avec les tambourins. Donc il faut vraiment que d'un point de vue percussion on soit en place, et faire vivre ce groove en jouant séparé, c'est pas simple. Donc c'est un aspect
parce que
je voulais garder.
Ça voudrait dire qu'il faudrait enregistrer au clic, au métronome, et on perd le côté groove en faisant ça.
Et puis ensuite, on a enregistré tout ce qui était voix et solo dans un second temps. Ça a pris aussi du temps parce que moi, je me suis formé en même temps au mixage. D'abord avec le single. Le single, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à mixer et à masteriser. Et puis ensuite, j'ai développé mes compétences là-dessus pour pouvoir vraiment sortir le son que j'avais en tête, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Puis il y a toujours le souci, quand on fait quelque chose soi-même, de pas avoir de vrai deadline et de se dire, finalement il y a ce petit détail là qui me gêne, et donc revenir dessus et sans jamais vraiment sortir de cette spirale. Ça c'est aussi, je pense qu'on aurait pu le sortir beaucoup plus rapidement si on s'était mis vraiment un vrai planning avec une vraie deadline, mais au final c'est un mal pour un bien, parce que le résultat me plaît vraiment. J'ai vraiment réussi à sortir un son, vraiment le son que j'avais dans la tête, quoi. Alors qu'à la base, quand on a attaqué le projet l'année dernière, j'étais quand même pas ultra au point sur ce que c'est qu'un mixage. Donc je suis quand même très content du résultat.
Alors justement, à quel moment on se dit c'est bon? Parce que on peut toujours se dire c'est pas bon, il y a encore un truc à modifier, il y a encore un truc à corriger. À quel moment on se dit c'est bon?
Jamais.
Est-ce que c'est Sarah qui a demandé, bah c'est bon, on y va, t'arrêtes, tu sors un peu de ton bureau?
Non, on se dit, moi je me dis pas c'est bon, pour moi c'est toujours pas bon.
Mais voilà, il y avait toujours quelque chose. À chaque fois qu'on le réécoutait, qu'on modifiait, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et c'est Emric qui, au bout d'un moment, a dit bon, allez, c'est tout là, on arrête de chercher la petite bête, parce qu'à force de trop vouloir le truc parfait, on va perdre le côté. Ça va être trop lisse en fait, quoi, et c'est pas le but du tout de notre projet. Donc il a dit allez, c'est tout, on arrête. Là, on a déjà quelque chose de très bien. Ça sert à rien de chercher la perfection, donc ça ira, et puis voilà, et il a eu raison au final.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on écoute d'autres albums, c'est que dans les autres albums aussi, il y a des défauts, mais vu qu'on ne les connaît pas, on ne les entend pas. Donc il n'y a que ceux qui font l'album qui les entendent, ces défauts-là. Donc il y a un moment, c'est très compliqué hein, de prendre ce recul par rapport à ce qu'on est en train de faire et de se dire oui, on est en train de se prendre la tête pour quelque chose que personne n'entendra, donc on va peut-être se calmer un petit peu, puis... Je me suis rendu compte en plus, avec le recul de l'album précédent, il y a plein de défauts que j'entendais avant et que maintenant je n'entends plus, que j'ai fini par oublier. Donc au bout d'un moment, on va peut-être arrêter de chercher vraiment la petite bête, de chercher la perfection. C'est surtout dû à un manque de confiance en soi. Donc à un moment, on va se lancer et puis on verra ce que ça donne.
C'est vrai que vu qu'on n'est que deux aussi, on n'a pas quelqu'un qui est extérieur au projet, qui nous a dit quoi faire, quoi changer, etc. Donc il y a aussi le fait qu'on n'avait pas de regard extérieur qui fait que c'était pas évident de se dire allez ok maintenant c'est bon.
Votre son, vous trouvez qu'il a évolué, que la patte des Secret Garden and the Dusty Man s'affine?
Alors s'affine non, j'irais le contraire moi, parce que justement elle se rootsifie,
elle se cradifie,
elle devient plus brute de décoffrage.
Alors quand je dis s'affine, c'est plutôt au sens vous voyez de plus en plus là où vous voulez aller.
Ouais,
ok,
c'est ça. Alors aussi parce que j'ai développé mon jeu de guitare. J'ai travaillé un jeu de guitare maintenant où j'ai plus besoin de rajouter des instrumentations derrière sur les enregistrements pour remplir l'espace. C'est toujours la même chose aussi, un premier album, pareil, avec le recul, je me rends compte que si j'avais envie qu'on ait plein d'invités, c'était déjà pour faire profiter les copains, mais c'est aussi toujours la même chose, par un manque un peu de confiance en soi, on veut rajouter, enfin en tout cas moi j'avais envie de rajouter des trucs parce que j'avais pas super confiance en moi là-dessus, et là maintenant j'ai beaucoup plus confiance dans mon jeu de guitare pour pouvoir remplir le truc
remplir l'espace sonore,
exactement, et beaucoup plus confiance en moi sur le style, sur un truc beaucoup plus brut de décoffrage.
Parce qu'en rajoutant plein d'invités comme on avait pu le faire sur le premier album, ça donne un truc moins roots et du coup c'est moins dans le projet.
C'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose qui ressemble à ça en live aussi.
Keep Looking Up, c'est le nouvel EP de Secret Garden and the Dusty Men, et pour aller écouter et soutenir ce groupe du Valenciennois, direction les plateformes d'écoute et de téléchargement numérique ou le site internet sgdm.fr. Un sujet de Julien Maille de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Summer. piédestal, formant un angle droit.
Antoine Sénéchal a 25 ans, il est originaire de Tinques, dans le Pas-de-Calais, entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras. Atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, il a subi une greffe du cœur en 2018. Aujourd'hui, il tient à sensibiliser au don d'organes et il témoigne dans un livre qu'il vient de sortir, « La vie n'est pas un jeu ». Il nous en dit plus sur sa maladie et son parcours.
Donc, avant cette greffe, j'étais atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, c'est un épaississement interne du cœur qui s'est déclaré à l'âge de 11 ans, qui est une maladie héréditaire. Et puis, cette maladie, elle a progressé avec la croissance. Donc, de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 17 ans et demi au moment où j'ai été greffé. Et entre-temps, au moment où ça a commencé vraiment à évoluer fortement, ils ont décidé de me poser un défibrillateur interne en prévention. Mais ils se sont vite rendu compte que le défibrillateur, il était là en prévention, mais que malgré tout, s'il y avait mort subite ou crise cardiaque, etc., le défibrillateur, malheureusement, il n'aurait pas forcément servi. Donc la seule opportunité, la seule solution pour continuer à vivre, on va dire, c'était de proposer la greffe cardiaque et de l'inscription pour la greffe. Donc ils ont commencé à m'en parler début 2018. Et puis ensuite, voilà, j'ai passé différents bilans psychologiques, médicaux, voilà, de la tête aux pieds, j'ai été examiné. Et puis une fois que tout était OK, une fois que tout était, les paramètres médicaux et psychologiques étaient validés, à ce moment-là, j'étais inscrit sur liste en juillet 2018. Et puis en fait, cette inscription sur liste, comme j'avais 17 ans et demi, j'étais inscrit sur liste pédiatrique. Et cette liste pédiatrique m'a donné priorité en fait sur la greffe. Ce qui a fait qu'en 3 semaines de temps, j'ai pu être appelé pour la greffe. Donc j'ai été appelé le 1er août 2018. Et puis après, voilà, c'est suivi un temps de déjà une semaine en chambre stérile pour être surveillé. Et puis après, une quinzaine de jours en chambre, on va dire, standard. Continuer aussi à être surveillé et voir s'il n'y avait pas de soucis et de problématiques derrière.
Parce que parfois, c'est beaucoup plus long pour avoir cette greffe.
Oui,
ça a été rapide. Mais...
Parfois, des fois, ça met beaucoup plus longtemps. Une personne, en moyenne, attend entre 6 mois et 2 ans pour pouvoir se faire greffer. Bien sûr, en fonction de la gravité de son cas, c'est sûr que les personnes qui, en 48 heures, doivent être greffées, bon, tout est fait, tout est mis en œuvre pour qu'en 48 heures, ils puissent être greffés. Parce que malheureusement... S'il y a cette question de 48 heures, c'est parce qu'au bout de 48 heures, bah malheureusement, ils seront morts s'ils ne sont pas greffés. Donc, c'est aussi comme ça que le grade sur la liste d'attente est mis en place.
Vous l'aviez dit, c'est héréditaire, donc la cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est votre papa qui avait cette maladie-là aussi.
C'est ça. Il avait exactement la même maladie, sauf que lui, ça s'est épaissi seulement sur quelques petites parois, petits endroits, on va dire, de l'intérieur du cœur, ce qui lui a permis de bénéficier de ce qu'ils appellent l'alcoolisation septale. Donc ils viennent brûler en fait l'intérieur du cœur pour désépaissir ces parties trop épaisses. Sauf que quand ils brûlent, ils créent des mini-infractus. Et en fait, quand c'est 1, 2, 3, 4 mini-infractus, bon, on peut supporter. Mais moi, le cœur était tellement de manière importante, épaisse, surtout l'intérieur du cœur, que le nombre d'infractus aurait été trop important. La greffe était plus bénéfique que l'alcoolisation septale, en fait.
Et aujourd'hui, comment ça va? Vous pouvez faire du sport comme tout le monde ou vous avez encore quelques séquelles? Comment ça se passe?
Oui, je peux reprendre le sport normalement. Alors, j'avoue que c'est pas forcément évident, puisque pendant 7 ans, en fait, du temps où la maladie s'est déclarée jusqu'à le temps que je sois greffé, j'ai pas pu faire de sport du tout. Mais sinon, la greffe me contre-indique pas du tout au sport. Et d'ailleurs, j'ai participé dernièrement aux ce qu'ils appellent les Jeux nationaux des transplantés. Donc, c'est des jeux qui sont dédiés spécialement aux personnes qui sont transplantées pour vraiment redonner envie aux personnes de faire du sport et contribuer en fait à en motiver d'autres.
Et donc aujourd'hui, à côté de votre métier de prof de cuisine en lycée, vous avez décidé aussi de passer beaucoup de temps pour sensibiliser les personnes aux dons d'organes. Donc vous êtes président de l'association donc de l'ADOT 59 qui est dans la région, donc sur Lille. Elle sert à quoi cette association? Surtout, c'est quoi son but?
En fait, dans chaque département, il y a une ADOT différente. Donc moi, je suis président pour le 59. Et donc dans tout le 59, on intervient, on fait des sensibilisations diverses et variées. On mobilise aussi les communes à devenir ville ou village ambassadeurs du don d'organes pour engager les communes dans la communication. Et puis après, on intervient dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées. On essaie d'intervenir partout là où on nous demande, les forums santé, les différents événements pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse recevoir l'information. Et puis je suis aussi représentant pour le don d'organes pour l'association Cardiogreffe Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. Et donc je mets à contribution mon parcours de greffé cardiaque au profit du don d'organes pour aussi apporter mon témoignage de greffé, montrer que la greffe ça marche.
Et vous apportez aussi votre témoignage à travers votre livre donc, qui vient de sortir. Ça s'appelle « La vie n'est pas un jeu ». Vous l'aviez déjà écrit depuis un petit moment. À quel moment vous avez décidé de le sortir et pourquoi?
J'avais déjà réfléchi au moment de ma greffe. Après ma greffe, je m'étais déjà mis en tête qu'un jour, j'écrirais un livre. J'avais déjà, peu de temps après ma greffe, commencé à écrire des petites parties, des petites choses, des éléments que je souhaitais mettre dans ce livre. Et puis voilà, ça s'est fait, on va dire, un peu progressivement. J'ai arrêté parce que le temps ne me le permettait pas. J'ai repris, il y a eu toutes des périodes comme ça où j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis là, en septembre 2024, du coup, il y a un événement. Enfin, mon père s'est suicidé, et donc ça a relancé un peu l'écriture de ce livre. Et donc, depuis septembre, fin septembre, début octobre 2024, c'est là où j'ai vraiment repris l'écriture de ce livre et où j'ai remis un peu, on va dire, toutes les parties que j'avais écrites bout à bout pour mener à bien ce livre et continuer cette écriture.
Oui, donc pour évoquer votre vécu en tant que greffé et votre maladie, et puis aussi parler un peu de votre papa et de sa bipolarité, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. En fait, il y a plusieurs... Alors, le fil conducteur, c'est montrer en fait que... Voilà, d'où le titre de ce livre, en fait. La vie n'est pas un jeu, c'est de montrer que voilà, la vie ne tient qu'à un fil et de manière... Voilà, sur différentes paramètres qui sont liés forcément à ma vie et ce qui m'entoure. Et donc oui, je parle de la bipolarité de mon papa, je parle de ma greffe, je parle aussi voilà, de ma dyslexie et de voilà, différentes complexités que l'école puisse avoir avec la dyslexie et l'évolution, on va dire, aussi de la dyslexie et tout, voilà, différents paramètres comme ça de ma vie, et ce qui permet en fait à pas mal de monde de se retrouver en fait dans ce livre.
Avec une belle illustration, on peut le dire.
Oui.
En page de couverture, c'est votre cousine qui a fait ça ?
C'est ça, c'est ma cousine, donc Ségolène Cassoret, qui est une artiste qui, voilà, surtout à Arras et ses environs, qui a contribué à ce livre en me proposant cette illustration de page de couverture.
Comment on peut décrire cette illustration ? C'est vous ?
Oui, c'est moi avec du coup avec le cœur dans ses bras, puisque voilà, le cœur, bah forcément, parce que je suis greffé cardiaque, et puis je tiens ce cœur vraiment pour dire que je tiens la vie à ce cœur.
Pour terminer, donc c'est l'occasion aussi de témoigner, donc c'est ce que vous faites en ce moment à notre micro, et puis de partager cette leçon de vie, de partager ce message aussi. Vous aviez quelques chiffres, parce que finalement on est beaucoup, ou en tout cas une bonne partie, à penser au don d'organes, mais à ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire à en parler à ses proches et faire cette fameuse carte. Est-ce qu'elle existe encore ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souhaite... procéder au don d'organes si un jour on n'est plus là.
Il n'y a plus cette question de carte. Avant, il y avait une carte de donneur. Bon, maintenant, elle a été un petit peu transformée en carte d'ambassadeur. Mais sa carte seule ne suffit pas. Il faut vraiment que derrière cette carte, il y ait une communication qui soit établie avec son entourage. Et voilà, le vrai message, c'est entre proches, on se le dit. C'est vraiment donner sa position et en parler autour de soi, pour qu'il y ait un maximum de monde qui soit informé sur le sujet. Donc voilà, la loi, bon, elle repose sur trois grands principes, qui est la gratuité, parce que voilà, on paye pas pour recevoir un organe ou pour le donner. Ensuite, l'anonymat, on sait pas, moi personnellement, je sais pas de qui vient mon cœur. Et ensuite, ce consentement présumé, donc vraiment le ressenti de la personne défunte. C'est vraiment la mission des infirmiers de coordination. Quand il y a un cas décelé de cette mort encéphalique, donc le cerveau qui ne réagit plus, qui va mener jusqu'au don d'organe, quand il y a un cas comme ça qui est décelé par les infirmiers de coordination, ils vont essayer de rechercher vraiment le consentement, ce que pensait réellement la personne au moment de son décès. Donc d'où l'intérêt d'en avoir parlé avant, puisqu'en fait forcément la personne qui est décédée, si l'entourage ne le sait pas, ça va être compliqué pour savoir ce que pensait la personne. Donc voilà, faut vraiment en parler, faut vraiment donner sa position à ses proches. Et voilà, si le message à retenir, c'est entre proches, on se le dit.
Et donc vous aviez des chiffres, parce que finalement, on sait à peu près combien de personnes pensent au don d'organes, mais n'en parlent pas à leurs proches, et parfois il est trop tard.
C'est ça, en fait, il y a 80% de personnes qui se disent pour, qui au fond d'eux, en fait, ils pensent, on a déjà entendu parler, ou autres, et qui sont pas forcément contre le don d'organes. Mais ce qui est dommage, c'est que ces personnes-là, elles le disent pas à leurs proches, et en fait, au moment où ça arrive, ben, il y a 45% de personnes qui refusent. Si on inverse un peu le chiffre, ça fait 55% de personnes qui acceptent, alors que normalement, il devrait y avoir 80% de personnes qui acceptent. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème dans la communication autour de soi, et qu'il faut vraiment communiquer, puisque voilà, il y a 20 000 aussi personnes qui attendent aujourd'hui, hein, plus de 20 000 qui attendent un organe, voilà, tout organe confondu. Et il y a 3 personnes qui décèdent chaque jour, faute d'organes, donc voilà, 2 à 3 en moyenne. Donc ça veut dire que ce soir, malheureusement, il y aura encore 3 personnes qui vont décéder faute d'organes. C'est un peu tous les chiffres qu'on peut retenir. Il faut en parler pour éviter qu'il y ait autant de morts. On estime que s'il y a 1% de refus qui diminue, il y a environ 100 greffes qui peuvent se faire de manière supplémentaire. Donc, aujourd'hui, on a 6000 greffes par an et on espère dépasser les 6000 cette année.
Et si on a des questions, on peut vous contacter ou contacter l'association ADOT 59.
Oui, il n'y a pas de souci. On répond aux questions et puis voilà, il y a aucun tabou. Nous, on répond à toutes les questions qui puissent venir.
Et vous pourrez donc vous procurer le livre « La vie n'est pas un jeu » d'Antoine Sénéchal directement sur Internet. Il sera en dédicace le 30 octobre au Furet du Nord de Douai et le 15 novembre au Furet du Nord de Béthune. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'homme élégant et soucieux de son confort exige le slip français.
Bonjour, vous écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. Une radio sans publicité.
J'ai un joli tout petit jardin. Fais penser à la campagne, pieds nus dans l'herbe de bon matin. Je ferme les yeux, tout est bien calme, jusqu'à ce que l'autre et sa tondeuse me donnent envie de tailler ma haie pour réveiller 3000 curieuses et faire claquer 6000 volets. J'ai un joli tout petit jardin à côté d'un tout petit jardin où il y a un chien qui aboie bien. Il aboie encore mieux que le mien, mais y a plus fort qu'en celle d'en face. Une voix puissante appelle son gosse qui est entré dans son palace avec plein de boue sur son bicross. J'ai un joli tout petit jardin, mais j'ai aussi une belle voiture que j'ai achetée pour 3 fois rien. Elle est très propre mais plus très sûre, et ce qui compte c'est qu'on y soit bien. C'est ce que j'ai dit à mon voisin qui a fait le tour en connaisseur. Devant le jaloux je faisais le frimeur. J'ai un joli tout petit jardin et mon gamin ici sent bien avec un ballon et le copain. Il énerve le chien du voisin, mais quand il shoot un peu trop loin, la balle crevée parfois revient, narquer ses pauvres petits bambins. Un chien, bon Dieu, ça comprend rien. J'ai un joli tout petit jardin devant une toute petite maison. Chacun fait selon ses moyens, ce qui compte c'est que ça soit du béton. Quoique des fois comme c'est mitoyen, je croirais que les murs sont en carton. J'entends jouir la femme du voisin, premier samedi du mois c'est con. J'ai un joli tout petit jardin et un barbecue sur roulette, acheté comme tous les gens du coin, en promenant la supérette. Quand il fait beau, j'ai remarqué qu'on avait tous la même idée. Il est fumant sans rigoler, elle attire même les pompiers. J'ai un joli tout petit jardin, y compris dans la location. Le HLM c'est plutôt bien quand t'as droit aux allocations, qu'elles soient braillettes ou bien logement. Puis belle lurette, tout de temps en temps, ça t'aide à vivre décemment. Et puis tout compte fait, t'es content.